quand le ciel, bas et lourd, pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon, embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Des cloches, tout à coup, sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement.
Bonsoir à tous et à toutes, nous sommes actuellement en direct de chez Rémi, dans un très bel appartement dans la rue des Remparts des Nais. Et c'est le mois de mai, il fait beau, les oiseaux chantent, et pourtant ce soir c'est de la pluie que nous allons parler, la pluie, la mélancolie, la nostalgie peut-être. Et nous commençons avec Rémi, qui va nous parler d'un extrait très connu dans La Chute de Camus.
Tiens, la pluie a cessé. Oh, ayez la bonté de me raccompagner chez moi. Je suis fatigué, étrangement, non d'avoir parlé, mais à la seule idée de ce qu'il me faut encore dire. Allons, quelques mots suffiront pour retracer ma découverte essentielle. Pourquoi en dire plus, d'ailleurs? Pour que la statue soit nue, les beaux discours doivent s'envoler. Voici. Cette nuit-là, en novembre, 2 ou 3 ans avant le soir où je crus entendre rire dans mon dos, je regagnais la rive gauche et mon domicile par le pont Royal. Il était 1 heure après minuit, une petite pluie tombait, une brune plutôt, qui dispersait les rares passants. Je venais de quitter une amie qui sûrement dormait déjà. J'étais heureux de cette marche, un peu engourdi, le corps calmé, irrigué par un sang doux comme la pluie qui tombait. Sur le pont, je passais derrière une forme, penchée sur le parapet, et qui semblait regarder le fleuve. De plus près, je distinguais une mince jeune femme, habillée de noir. Entre les cheveux sombres et le col du manteau, on voyait seulement une nuque fraîche et mouillée à laquelle je fus sensible. Mais je poursuivis ma route, après une hésitation. Au bout du pont, je pris les quais en direction de Saint-Michel, où je demeurais. J'avais déjà parcouru une 50aine de mètres à peu près lorsque j'entendis le bruit, qui, malgré la distance, me parut formidable dans le silence nocturne d'un corps qui s'abat sur l'eau. Je m'arrêtai net, mais sans me retourner. Presque aussitôt, j'entendis un cri plusieurs fois répété qui descendait lui aussi le fleuve, puis s'éteignit brusquement. Le silence qui suivit dans la nuit soudain figée me parut interminable. Je voulus courir et ne bougeais pas. Je tremblais, je crois, de froid et de saisissement. Je me disais qu'il fallait faire vite et je sentais une faiblesse irrésistible envahir mon corps. J'ai oublié ce que j'ai pensé alors. Trop tard, trop loin, ou quelque chose de ce genre. J'écoutais toujours, immobile. Puis, à petits pas, sous la pluie, je m'éloignais. Je ne prévins personne. Mais nous sommes arrivés, voici ma maison, mon abri. Demain, oui, comme vous voudrez, je vous emmènerai volontiers à l'île de Marken, vous verrez le Zuiderzee. Rendez-vous à 11h à Mexico City. Quoi? Cette femme? Oh, je sais pas vraiment, je sais pas. Ni le lendemain, ni les jours qui suivirent, je n'ai lu les journaux. La chute, Albert Camus.
Le poème que je vais vous lire à présent, extrait des paroles de Prévert, vous le connaissez sans doute déjà. Il vous rappellera de vieux souvenirs de lycée. Ici, c'est une pluie désespérée qui tombe sur une ville en ruine et sur un amour disparu. Écoutez Barbara. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante, sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, Il pleuvait sans cesse sur Brest. Et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais, et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi. Rappelle-toi quand même ce jour-là. N'oublie pas, un homme sous un porche s'abritait. Il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jetée dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis « tu » à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis « tu » à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas, cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre! Qu'es-tu devenue maintenant? Sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang, et celui qui te serrait dans ses bras, amoureusement, est-il disparu, ou bien encore vivant? Oh, Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant, mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée, ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang, tout simplement des nuages, qui crèvent comme des chiens. Des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien.
Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Chemin faisant, que ce fut tendre, d'où ira de le chant joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge. 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Mais bêtement, même en orage, les routes...
Deux cavaliers de l'orage, l'histoire de deux frères qui s'aiment et qui se tuent. Giono, sous un orage apocalyptique, noie ses personnages jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la terre provinciale, dans laquelle ils semblent avoir été sculptés.
Le temps s'acharnait à la pluie. Les nuages étaient couchés pesamment sur la terre du plateau. Des rages d'eau hachaient les arbres et la boue. Des troupeaux d'averses couraient de tous les côtés sous les coups de pierre du vent. Puis il se remettait à paître la forêt et les hommes qui passaient comme des ombres sous la crème grise du brouillard. Ce n'étaient plus des raies de pluie ou même des jets de fontaines, c'étaient de gros paquets lisses, luisants comme du fer neuf, et sous lequel, hachés comme à la serpe, éclataient des branches plus épaisses que le bras. Tout le monde monta dans les greniers. Ils étaient remplis d'embruns. Sur les toitures, les tuiles sautaient les unes dans les autres. Les hennissements, les ruades, les cris des chèvres, les galopades des moutons, le clairon des ânes tirèrent tout le monde en bas des étables. La paille des litières flottait sur des fleuves qui crevaient les portes. Des remous, des tourbillons, des ressacs claquant et démolissant les faisceaux de fourches emportaient des couvées de poussins. Les poules volaient à travers les étables en s'assommant contre les murs. Les fenêtres tremblaient, les portes sursautaient, le mastic tombait des vitres. Des filets d'eau ayant traversé les murs commençaient à rire sur le crépi des chambres. Il se mit à pleuvoir à tous les étages. On plaça des casseroles sous les filets d'eau qui tombaient des plafonds. On poussa les moutons et les chèvres dans les escaliers pour les faire monter aux étages. Mais il fallait entrer dans l'eau jusqu'au ventre pour sauver les poules qui se noyaient, tournant dans les remous, les ailes étendues. On laissa provisoirement les chevaux où ils étaient. Il n'y avait rien à faire pour eux. Ils ne risquaient guère, sauf la peur. Ils avaient de l'eau jusqu'à mi-jambe. Il n'y avait qu'à les rassurer, leur parler, les approcher, rester là, leur flatter l'encolure et attendre. Le temps n'allait pas toujours rester comme ça. On ne pouvait plus appeler ça de la pluie. Des murailles et des murailles d'eau, des plaques de fer. Il n'y avait plus moyen de sortir, même pour traverser la rue dont on ne voyait plus l'autre côté, caché par la tôle luisante, lisse et fermée de l'eau qui tombait. Au moment où les pendules marquèrent 4 heures de l'après-midi, il y eut un éclair en forme de drap rouge, auquel justement on ne pouvait plus donner le nom d'éclair, car non seulement il dura très longtemps, au moins une bonne minute, mais il n'éclaira pas. Il fut seulement au milieu de l'ombre bleue des nuages, de plus en plus sombre à cause de l'heure qui tombait vers la nuit, comme une grande draperie flottante qui, en même temps qu'elle ébranlait toute la terre du fracas de son flottement, n'illumina que le monstrueux château noir des nuées. On vit alors, tout le temps que ce phosphore s'éparpillait, les montagnes d'eau énormes qui traversaient le ciel. Tout de suite après, il resta juste assez de jours pour voir apparaître en pleine rue un être de 30 ans que l'orage avait abattu et que l'eau charriait avec une telle force que l'arbre, ses branches, ses feuilles rousses écorchèrent violemment toute la rue de haut en bas, comme si on avait ramonné des cheminées avec le hérisson, dégradant les murs, raflant les portes, faisant sauter les encoignures. Puis la nuit tomba. C'était toujours sans ralentissement les mêmes amas d'eau qui s'abattaient. Valérie arriva chez mon cadet, noyée dans ses cheveux raides, collés du front à la bouche. « Marceau n'est pas là, dit-elle. »« On ne l'a pas vu, dit mon cadet. »« Où est-il ? » ?»« Il est parti ce matin dans l'éclaircie chercher la feuille au faillard de Gavary. »« J'y vais, dit mon cadet. » Il sortit d'un coup, sans prendre le temps de rien. Devant chez lui, il entra dans l'eau jusqu'aux genoux, mais il y avait un talus sur lequel il courut. On ne voyait plus rien que de tout petits éclairs qui tranchaient en voletant comme des hirondelles et à peine s'ils crépitaient comme de l'huile à la poêle. Après le talus, mon cadet plongea résolument dans l'eau. Il contourna la placette où habitaient les martels en se cramponnant aux anneaux de fer du maréchal Ferrand. Il arriva vers l'église avec de l'eau jusqu'au ventre. Le curé, qui l'entendit patauger et vit son ombre, l'appela du seuil de la sacristie. Il se battit un moment à coups de rein contre un courant qui essayait de l'emporter vers les terres basses, et il s'arracha finalement des eaux comme un chien, ongle dans la terre, pour monter sur le tertre où était la croix des missions de 1893. C'était la nuit noire partout, mais là-haut dans le nord, à peine large d'un travers de doigt, un peu de vert du crépuscule sur lequel se dessinait une bosse du plateau qui lui fit tourner sa direction. Cette andouille de Marceau, s'il avait eu le temps de faire demi-tour, devait être là-dedans, sur les hauteurs. Il courut au sec, mais dans une pluie si épaisse qu'elle lui faisait mal en le frappant au genou. Il se protégeait le visage avec ses mains, ouvrant juste les doigts du milieu pour ses yeux. La première crête sur laquelle il courut s'arrêta au moment où elle plongeait dans le vallon qu'il reconnut être le Bousson. En bas dedans, des eaux roulaient. Il descendit avec précaution dans la terre qui coulait autour de lui, mais en s'approchant, il se rendit compte que là, maintenant, il y avait des eaux trop lourdes, trop furieuses pour traverser. Pourvu que Marceau n'ait pas été surpris dans un de ses fonds. Il remonta sur la hauteur et chercha à gagner la crête de Mariande par le menou. Par le menou, c'était possible et c'était encore possible. Il pataugea dans la sapinière avec de l'eau plus haut que le genou, déjà forte et toute ruée, mais brisée par les troncs d'arbres auxquels d'ailleurs il se retenait à peine bras de l'autre côté. Il apporta la longue crête de Mariande qui le mènerait un bon moment, un bout de chemin dans sa direction. Il était trempé au-delà de ses os. Ses pantalons de velours gorgés d'eau pesaient et s'enroulaient dans ses jambes, comme des chaînes de fer. Il allait les enlever quand il entendit des galopades devant lui, des hennissements, et enfin le rond d'un petit éclair bleuâtre qu'il vit l'enchevêtrement des deux chevaux qui se poussaient de flanc et secouaient l'encoulure. Il s'arrêta et les appela. Tout de suite, ils s'écartèrent, un à droite, un à gauche, et comme il continua à appeler, celui de droite s'approcha timidement, pas à pas, tendant le cou, reniflant de toutes ses forces, se plaignant avec de petits gémissements d'enfant. Dès que mon cadet put lui toucher les naseaux, la bête se serra contre lui, lui éternuant contre la poitrine et le visage, frottant éperdument son frontail sur ses flancs. Il lui parla, la caressa, lui flatta le cou. Il la toucha partout pour voir s'il ne lui restait pas quelques morceaux de harnais, mais la bête était toute nue. Il déboucla sa ceinture et la passa autour du cou de la bête. Il monta sur le dos du cheval qui se laissa faire. Au bout de Marian, d'une sorte de petit vallon naturellement plein d'eau, coupait le passage vers Gavary. Les faillards étaient de l'autre côté. Mon cadet poussa le cheval dans l'eau. La bête refusa. Mon cadet parla. La bête refusa et fit un saut en arrière. Mon cadet serra les genoux. La bête écarta de côté. Mon cadet la remit en ligne. Doucement, il lui parla, la flattant de la main, lui grattant les oreilles, pour la mettre bien droit sur le flanc de ses os des bas-fonds. Il la frappa d'un coup de poing sur la tête, mais la bête était comme plantée. Elle se cabra toute droite, et mon cadet, désarçonné, roula dans les pierres. Si vite qu'il se redressa, le cheval galopait déjà en remontant Mariande. Alors il entendit appeler de l'autre côté. Il courut et se jeta à l'eau. Les hommes du plateau ne savent pas nager. Il s'enfoussa, s'engloutit, sauta rejeté comme une balle dans la paume brutale d'un courant profond. Un lasso d'eau s'enroula à ses reins, le coucha, fit tourner ses jambes par-dessus sa tête. Il ferma sa bouche sur la boue. Il se vit tout plein d'une extraordinaire lumière orange qui lui déchirait les poumons.
Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. When he went away, the blues walked in and met me.
En 1942, Francis Ponge publie Le Parti pris des choses. À travers une série de poèmes en prose, il nous propose un nouveau regard sur les choses du quotidien, un regard qui lève le voile de l'habitude et de la banalité, un regard en enfance qui parvient encore à s'étonner de ce que l'on connaît si bien. Reprenons tout depuis le début et regardons la pluie tomber. La pluie, dans la cour où je la regarde tomber, descend à des allures très diverses. Au centre, c'est un fin rideau, ou réseau, discontinu. Une chute implacable, mais relativement lente, de gouttes, probablement assez légère, une précipitation sempiternelle sans vigueur, une fraction intense du météore pur. À peu de distance des murs de droite et de gauche, tombent avec plus de bruit des gouttes plus lourdes, individuées. Ici, elle semble de la grosseur d'un grain de blé, là d'un poids, ailleurs presque d'une bille. Sur des tringles, sur les accoudoirs de la fenêtre, la pluie court horizontalement, tandis que sur la face inférieure des mêmes obstacles, elle se suspend en berlingot convexe. Selon la surface entière d'un petit toit de zinc que le regard surplombe, elle ruisselle en nappes très minces, moirées à cause de courants très variés par les imperceptibles ondulations et bosses de la couverture. De la gouttière attenante, où elle coule avec la contention d'un ruisseau creux sans grande pente, elle choit tout à coup en un filet parfaitement vertical, assez grossièrement tressé, jusqu'au sol où elle se brise et rejaillit en aiguillettes brillantes. Chacune de ces formes a une allure particulière. Il y répond à un bruit particulier. Le tout vit avec une intensité, comme un mécanisme compliqué, aussi précis que hasardeux, comme une horlogerie dont le ressort est la pesanteur d'une masse donnée de vapeur en précipitation. La sonnerie au sol des filets verticaux, le glouglou des gouttières, les minuscules coups de gong se multiplient et résonnent à la fois en un concert sans monotonie, non sans délicatesse. Lorsque le ressort s'est détendu, certains rouages quelque temps continuent à fonctionner, de plus en plus ralentis, puis toute la machinerie s'arrête. Alors si le soleil reparaît, tout s'efface bientôt. Le brillant appareil s'évapore. Il a plu. Francis Ponge, le parti pris des choses. La pluie, la ville, la nuit, c'est un cliché cinématographique récurrent qui hante toute la littérature de Jean-Philippe Toussaint, de ses couleurs embrumées. Pour ce dernier texte, plongeons dans Paris, laissons les gouttes ruisseler sur nos visages, dans la lueur des feux tricolores et des enseignes lumineuses.
Je n'avais d'abord rien compris quand Marie m'avait appelé au téléphone en pleine nuit. La pluie tombait à verse par la fenêtre ouverte, l'orage grondait et j'entendais les sonneries du téléphone qui résonnaient dans l'obscurité du petit deux pièces où j'avais emménagé quelques mois plus tôt. Au moment de décrocher, j'ai immédiatement reconnu la voix de Marie, Marie qui m'avait appelé à la suite du coup de téléphone qu'elle avait donné au secours, juste avant ou juste après, je ne sais pas, les deux coups de téléphone avaient dû avoir lieu dans la foulée. Marie agitée, confuse, implorante, qui m'appelait à l'aide, me demandait de la rejoindre tout de suite. Mais ne m'expliquant pas pourquoi, « Viens », me disait-elle d'une voix précipitée, « Viens tout de suite, dépêche-toi, c'est urgent », me sommant, me suppliant de la rejoindre immédiatement rue de la Vrillière. Le coup de téléphone de Marie, il était un peu plus de 2 heures du matin, je le sais, j'ai regardé l'heure quand le téléphone a sonné, avait été extrêmement bref. Aucun de nous n'avait eu envie ou n'avait pu parler, Marie m'ayant simplement appelé à l'aide et moi j'étais resté sans voix, paralysé par l'angoisse qui m'avait envahi en entendant le téléphone sonner en pleine nuit, sentiment encore renforcé, stimulé même par l'émotion irrationnelle, violente, qui m'avait submergé quand j'avais reconnu la voix de Marie, immédiatement l'embarras, la gêne, la culpabilité. Car alors même que je reconnaissais la voix de Marie au téléphone, mon regard était posé sur le corps d'une jeune femme qui dormait à côté de moi dans ma chambre. Je voyais son corps immobile allongé dans la pénombre, elle ne portait pour tout vêtement qu'une petite culotte de soie bleu pâle. Je regardais son flanc nu, la ligne de ses hanches. Je regardais Marie sans comprendre, Marie, elle s'appelait Marie elle aussi, et dans un sentiment d'étourdissement et de vertige, j'entrevis alors l'étendue de la confusion dans laquelle je vivrais les dernières heures de cette nuit. Certes, je faisais clairement la distinction entre Marie et Marie, Marie n'était pas Marie, mais j'eus immédiatement l'intuition que je ne parviendrais pas à me dédoubler moi-même et être à la fois celui que j'étais pour cette Marie qui était dans mon lit et celui que, ce que j'étais pour Marie. Son amour, même si nous ne vivions plus ensemble depuis que je m'étais installé dans ce petit deux pièces de la rue des Filles Saint-Thomas à notre retour du Japon. Il était 2h30 du matin quand je quittais le petit deux pièces de la rue des Filles Saint-Thomas pour rejoindre Marie. Dehors, le ciel était sombre, noir, immense, invisible, sans autre horizon que la ligne de pluie qui tombait sans discontinuer dans la lumière jaune des réverbères. Je m'étais jeté dans l'averse, le col de la veste relevé, et je m'étais éloigné vers la place des Victoires, courbé contre la pluie qui m'entrait dans les yeux. Le tonnerre grondait au loin, à intervalles réguliers, et la pluie s'accumulait en bouillonnant dans les bouches d'égouts engorgées, dégringolait dans les rigoles avec l'impétuosité de petits torrents urbains débondés et sauvages. J'atteignis la place de la Bourse en pleine nuit, silencieuse, abandonnée, les hautes colonnades du palais Brongniart illuminées dans les ténèbres. L'esplanade était déserte, sur laquelle un rideau de pluie oblique tombait avec fracas dans une immense flaque noire brouillée d'éclats de gouttes dont le vent chiffonnait la surface. Je ne voyais pas à 10 mètres, je ne savais pas où j'allais, je serrais ma veste entre mes bras dans un geste de protection dérisoire. Je prenais de mauvaises directions et je revenais en courant sur mes pas, je manquais de perdre l'équilibre sur les trottoirs glissants. Des reflets de lumière de lampadaires se réverbéraient ici et là sur l'asphalte mouillé et de temps à autre, dans l'espèce de brouillard aqueux que la pluie formait devant mes yeux, j'apercevais les phares fantomatiques d'une voiture qui passait au loin, au ralenti, lentement, barbotant dans l'eau qui entravait ses roues, tout phare allumé dans le déluge.
The rain, the rain came down in sheets that night, and you and I stared out to the left and to the right. Rain came down in gusts, seemed to laugh at us till clouds raced out across the autumn sky. And you and I fumbled for a way to say goodbye. Strangers were in tweed, scared to look into each other's eyes. Strangers were in tweed, scared to look into each other's eyes.
Chers auditeurs, c'était donc nous. C'était Rémi, Maë et Eva en direct du 26 rue des Remparts des Nez. Et oui Rémi, j'ai donné ton adresse. Comme musique ce soir, on avait Le Parapluie de Brassens, Stormy Weather de Billie Holiday et The Rain de Mélodie Gardot. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés et je pense que je vous dis à l'année prochaine, ou pas parce que je serai en agrègue, mais j'espère bien que quelqu'un reprendra les yeux en des oreilles parce qu'on tient à cette émission à Transistor. Voilà, merci beaucoup et au revoir.